News FM. News FM à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk. Monte le son.
Les amis, avant de commencer la dernière émission d'Open By de l'année 2019, un petit mot de l'opération que nous avons lancée ces dernières semaines sur Instagram, hashtag une trottinette pour Laura, afin que Laura Domange, qui sera peut-être avec nous, puisse se produire en spectacle à Grenoble et dans la foulée, faire un petit saut dans Open By sur News FM. Face aux grèves dans les transports et afin de parcourir les 480 km à vol d'oiseau qui séparent Paris de Grenoble, nous avons besoin de vous et de vos dons pour obtenir 12 trottinettes électriques qui se relayeront sur les 480 km du trajet. Et permettez-moi de vous dire qu'à l'heure actuelle, les calculs sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons. Matt Is et Matt Hild, comme vos noms l'indiquent, vous êtes mathématiciens. Mathilde, on en est où sur les dons à l'heure actuelle là? Je vois qu'on est très mobilisés.
Non.
Non, pas mobilisés, on est à combien? Combien?
Je sais pas beaucoup.
Pas beaucoup, on est à non. Zéro toujours. Oh, misère. Mathis, est-ce qu'il y a des appels là?
Non, toujours rien.
Toujours rien, misère. Laura Domange, bonjour, tu es la principale concernée par cette opération. Est-ce que tu as un mot à dire pour encourager les dons?
Alors oui, puisque actuellement on est en train de faire l'émission en duplex. Je parle avec vous depuis Paris là actuellement, donc s'il vous plaît, laissez-moi les rencontrer en vrai. Donnez-moi une trottinette.
Une trottinette, 12 trottinettes ou une trottinette qui soit rechargeable évidemment. Et une fois que nous aurons ces 12 trottinettes, vous pourrez évidemment donner à d'autres causes qui sont moins importantes, mais à ne pas négliger quand même, comme le Téléthon, les Restos du Cœur, Médecins du Monde et d'autres associations qui se battent au quotidien dans le monde, comme tout près de chez vous, à Grenoble et à Paris. On embrasse l'association Le Réchaud, qui je crois te tient à cœur. Laura, tu veux nous en dire un petit mot?
Oui, bien sûr. Alors, rien à voir avec les trottinettes, hein, enfin, quoique. non, c'est une association qui vient en aide aux migrants, au moyen de la cuisine. Voilà, donc on a commencé à faire les premières opérations à Grande-Synthe, sur le centre d'accueil pour réfugiés de Grande-Synthe. On a cuisiné ensemble avec les réfugiés qui étaient là. On a créé des ateliers de cuisine parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un seul langage universel et c'était bien la bouffe.
C'est formidable.
Donc on a cuisiné ensemble et puis de là, on a voulu continuer cette aventure. Et aujourd'hui, à Paris, on s'est installé dans une ancienne caserne de pompiers. Au centre d'accueil Aurore, et dans le 16e, et on a créé la table du réchaud. Donc les Parisiens ou ceux qui, si vous venez en vacances à Paris, vous pouvez venir manger chez nous. On emploie, on fait de l'insertion professionnelle pour les personnes réfugiées. Voilà.
Et c'est formidable, c'est un très beau résumé. On va donc passer à l'émission, une émission presque normale. Est-ce que Laura Domange sera avec nous? Suspense. Bonsoir les amis, à ma montre cassée, il devrait être 20h maintenant, soyez toutes et tous les bienvenus. Je m'appelle Amine et je suis très heureux de vous retrouver pour le 6e numéro déjà d'Open By et la dernière émission inédite de l'année 2019. C'est l'émission qui vous permet de répondre à la question « C'est quoi les bails ?» Autrement dit, quoi de neuf sur Grenoble et ailleurs. Tout d'abord, merci pour vos nombreux retours suite à la soirée Émergence 4 du 12 décembre dernier, une soirée qui mettait les jeunes talents de Grenoble en valeur sous le parrainage de Kader Bono et à laquelle nous avons pu participer avec ma complice Mathilde. Salut Mathilde!
Bonjour à tous!
Comment ça va?
Très bien et toi?
Mais ça va super bien! De quoi tu vas nous parler dans ton instant narration, le récit que tu écris chaque semaine pour les auditeurs?
Alors, désolé Amine, ce sera encore un sujet pas très joyeux, mais bon. Ça fait partie de l'actualité, c'est pas pour rien, mais je vais pas en dévoiler trop, on verra ça à la fin de l'émission.
Quel suspense! Mathilde est habituée de faire des instants narrations qui ne sont pas toujours très joyeux, mais qui sont souvent intéressants. Quand on a annoncé il y a 2 semaines la venue possible de notre invité et eux, j'ai reçu un message de l'individu tout à ma gauche. Tiens Amine, j'ai fait une chronique pour toi ce matin, si ça vous intéresse toi et Mathilde. Alors moi, pas avare pour un sou, je lui ai fait « Eh ben super top, génial, comme ça moi j'ai pas besoin de faire une chronique !» Il a 19 ans, il était déjà venu dans la 2e émission d'Open By en tant qu'invité. Mathis, tu es de retour avec nous pour nous partager ton humeur du moment en chroniqueur d'un soir. De quoi est-ce que tu vas nous parler?
Je vais vous parler de faire des bébés, ou plutôt de ne pas en faire.
De ne pas en faire.
Oui.
Voilà qui intéresse déjà notre invité exceptionnel de ce soir. En dépit des grèves et de l'échec relatif de l'opération hashtag une trottinette pour Laura, elle a réussi à être parmi nous ce soir.
Ouais.
Talentueuse humoriste parisienne tombée dans le théâtre comme Obélix dans la potion magique, chroniqueuse radio, presse, web, que reste-t-il à faire pour cette bosseuse acharnée? Elle était de passage sur Grenoble pour les avant-premières de son nouveau spectacle encore en rodage, l'occasion de l'accueillir en personne pour mieux comprendre qui elle est et qui se cache derrière les drôles de personnages qu'elle incarne sur scène. Ce soir, pour la dernière de l'année 2019, vous êtes gâtés parce que Laura Domange est l'invitée exceptionnelle d'Open By sur News FM.
Est-ce que je suis une femme, une fille, une gamine, une dame, petite prude, petite pute, je sais pas. Une petite dame, toute fragile.
Je suis nounou, wesh.
Tout de suite, j'étais plus Gigi l'impératrice, hein.
Mon monstre.
Quand je fais ça, on arrête. Chaque personne est unique et chaque unique n'est personne. Merci, messieurs, dames.
Bonsoir Laura Domange.
Bonsoir, oulala, c'est un vieil extrait que vous avez téléchargé là.
Un vieil extrait d'un de tes anciens spectacles.
Oui, un bien, bien ancien, ouais.
On est très heureux de t'accueillir dans l'émission Open By. Tu as finalement réussi à venir sans trottinette.
Oui, et grâce à Xavier Bazoge qui m'a conduit en voiture, voilà, et qui a supporté mon humeur. Je hais la voiture.
On l'embrasse. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes le vendredi 13 décembre, un jour qui te portera chance, je l'espère.
Vendredi 13, moi aussi, j'espère. S'il ne porte pas chance, ça va pas être super. Ouais,
alors, hier, tu as présenté l'avant-première de ton spectacle à la basse-cour, donc encore en rodage. Donc, c'était le 12 décembre. Mm-hmm. Comment ça s'est passé?
Ça s'est très bien passé. Voilà, donc c'est une toute première. Donc, pour l'instant, je n'avais jamais confronté toutes ces idées devant un public. Donc, c'est toujours hyper stressant. Mais franchement, voilà, il y a énormément de choses à améliorer, à affiner, ouais. Bien évidemment. Mais au moins, comment dire, j'ai pas fait un hors-sujet, j'ai l'impression.
Bon,
voilà.
C'est déjà pas mal. Alors, pour les quelques auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, et afin de mieux cerner ta personnalité, comme pour tous nos invités, on te propose, prépare-toi, un portrait chinois. Oh. Tu connais le concept ?
Ouais, si j'étais un gâteau, tout ça.
Exactement.
Et c'est moi qui dois répondre ?
C'est toi qui dois répondre, évidemment. Mathilde, je te laisse gérer le portrait chinois.
D'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup des livres ou pas spécialement ?
Un petit peu, mais je suis pas... Oui, je lis moins qu'est-ce que je devrais, en tout cas.
Et du coup, si tu étais un livre, t'as pas...
Ah si. Ah, bah, si quand même, ouais, ça
un
va,
petit peu.
J'en lis suffisamment pour pouvoir...
Avoir une idée.
Si j'étais un livre, la Bible, je rigole. C'était pour l'instant modeste. Bon, alors, je vais citer une femme que j'adore. Je vais dire Lisa Lou et le conte, je sais pas quoi. C'est un conte philosophique que Mylène Farmer a écrit. Et j'aime bien parce que c'est un objet complètement hybride. J'ai jamais compris pourquoi elle a fait ce truc-là. Ça va nulle part. J'adore. Et c'est complètement, c'est gratos, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'est ce que j'aime bien aussi avec cette femme, c'est que elle va là où on l'attend pas forcément. Il y a des dessins d'elle qui sont hyper enfantins. Enfin, je trouve ça assez marrant, assez poétique et puis assez inattendu. Voilà. Donc j'aime bien ce truc-là. Pourquoi est-ce que ça serait moi ? Voilà. J'ai l'impression d'être un peu aussi un objet hybride moi-même. Donc
d'accord,
voilà.
Très bien. Alors Laura, si je peux me permettre, si tu fais des réponses de 4 minutes pour chaque portrait chinois, ça va être un peu compliqué.
Ah ok, d'accord. Okay.
Mais donc, c'est très bien.
C'est une façon gentille de dire Laura, ferme ta gueule.
Non, bah,
pas de soucis, pas de soucis.
En fait, c'est totalement... En fait, c'est que si tu fermes tout ta gueule, il n'y a pas d'émission. Ça va être
d'accord.
Un peu... Mathilde.
Si tu étais un personnage de fiction.
Ah oui.
Comme tu parlais avec engouement du livre tout à l'heure.
Elle regarde son complice à côté. Dans...
Quand je parlais de quoi ?
Avec engouement du livre de Mylène Farmer, je me suis dit peut-être qu'elle aura une idée, tu vois.
Si j'étais un personnage de fiction, je sais pas, je peux répondre tout à l'heure ?
Tu peux répondre tout
si
à l'heure.
Tu veux. Okay,
ce qui veut dire qu'elle ne répondra jamais. Mathilde.
Bah, tu l'as dit tout à l'heure, si tu étais un dessert.
Ah ouais. Je pense que je serais un fraisier. Un fraisier au beurre salé. Voilà.
C'est bon.
Ça n'existe pas encore, mais j'ai envie.
Mais tu vas l'inventer.
Voilà,
tu vas l'inventer, tout simplement.
Voilà.
Si tu étais une mauvaise habitude à part aller en voiture.
Si j'étais. Ah oui. Si j'étais. Bah, le bordel. Le fait de ne pas ranger.
Si tu étais un style de musique.
Ah oui. Si j'étais un style de musique. Je dirais. Les musiques un peu de fusion électro avec des sons musique du monde sur de l'électro. Voilà.
Un exemple de musique en tête ou une chanson peut-être ?
C'est quoi la chanson ? De Courtrage-Mé, là.
C'est magnifique pour vous décrire. Laura Domange pose la question à son complice qui est à côté, qui a fait les grands yeux, grands ouverts comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?
Bon, bah voilà, je sais pas, je connais pas les titres, je suis nulle en titres.
Et ben, si tu le retrouves, tu nous le redis, on l'ajoutera au montage
avec
de l'émission.
Avec plaisir.
Mathilde.
Je vais laisser l'honneur à Amine de poser sa question du portrait chinois.
Alors, Laura Domange, ici, on te l'a dit, on est sur une radio locale associative, donc tu peux te permettre de tout dire si tu étais un gros mot. La musique s'est coupée comme ça, ça met vraiment du suspense.
Un gros mot ou un petit... Taras, c'est possible ça?
Évidemment taras, que oui.
C'est pas un gros mot, mais une petite insulte. Quoi.
Bon, taras. Juste le CSA qui va nous prendre... On va peut-être avancer pour, sur le portrait chinois. Moi, Mathilde, tu veux en faire un dernier?
Tu as retrouvé une idée pour le personnage de fiction ou on
non,
abandonne?
Toujours pas. Okay,
on peut passer à la suite, c'est bon.
Alors, on va passer à la suite. Donc, pour ceux qui t'apprécient et qui n'ont pas pu te voir à Grenoble les 12, 13 et 14 décembre à la basse-cour, oui, il est prévu que tu passes à Genève les 20 et 21 décembre au Caustic Comedy Club, c'est bien ça?
Oui.
Alors, soyez motivés si vous voulez prendre le train ou la voiture pour aller la voir et que vous l'avez manqué à Grenoble, n'hésitez pas. Donc, tu nous l'as dit, tu testes ton prochain spectacle, c'est la raison de ton passage à Grenoble. Alors, comment est-ce qu'on écrit un spectacle? Comment est-ce que tu écris un spectacle?
Alors, justement, c'est intéressant parce que j'ai aucune méthodologie. Entre le premier spectacle, j'avais vraiment écrit avec un binôme, un co-auteur, qui était mon ancien prof de théâtre, et je faisais plein d'impro. Et on les enregistrait, après on écoutait et on disait « Ah ça c'est marrant, allez on peut mettre un peu plus de fond là-dessus » et tout ça. Et on étirait, on construisait les sketchs comme ça. Pour ce spectacle, j'ai voulu écrire seule parce que petit à petit d'ailleurs, sur l'ancien, j'ai commencé à tout réécrire seule. Donc voilà. Et donc là, ces dernières années aussi, le stand-up est vraiment rentré dans ma vie. Parce qu'avant ça, j'ai vraiment une formation de comédienne et tout. Et,
on va en reparler tout à l'heure.
Voilà, et du coup j'ai voulu... J'ai un peu plongé malgré moi dedans, parce qu'à Paris aussi, sur les plateaux d'humour, c'est compliqué de proposer autre chose que du stand-up.
Ouais.
Donc voilà. Au début, c'était vraiment pour m'adapter. Puis après, j'ai vraiment mieux compris l'intérêt de cet art, qui est comme, c'est vraiment un art quand même. Et du coup, voilà, j'ai commencé à écrire. Je me suis pris un plateau dans un nouveau comedy club à Paris qui s'appelle le Barbès. C'est le comedy club de Shirley Soignon qu'elle vient d'ouvrir. Elle m'a donné une carte blanche tous les lundis. Et donc, tous les lundis après-midi, j'ai écrit un passage de stand-up que je testais le soir même. Voilà, c'est comme ça que je me suis mise à écrire. Et puis, ça faisait un moment que j'avais dans la tête des idées qui me trottaient, notamment... je suis quelqu'un qui dort peu, qui dort très mal surtout.
Insomniaque, ouais.
Très insomniaque, voilà. Et du coup, j'ai décidé de construire le spectacle comme une grande insomnie. Donc, c'est un peu le thème qui va relier toutes ces idées que j'ai pu avoir tous les lundis, qui sont inspirées pas mal de ce que je vis et de ce dont j'avais envie de parler sur scène. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question?
Tu as très bien répondu à la question.
J'ai tendance à faire des sujets, c'est pour ça que je vous dis ça.
Non, c'est intéressant, on boit tes paroles tout simplement. Okay. Est-ce que tu vas toujours incarner des personnages? Est-ce que tu vas incarner des personnages ou est-ce qu'il y aura plus de toi dans le spectacle?
Alors, de toute façon, même quand il y a des personnages, moi je trouve que c'est une part de moi
bien
très forte. Déjà parce que c'est des gens que j'ai rencontrés, soit des gens que j'ai rencontrés, soit une partie de moi très forte qui a envie de s'exprimer en fait. Donc voilà, mais là, oui, on va dire que je parle clairement plus de moi. Mais il y a quand même des personnages, il y en a quand même qui interviennent de façon beaucoup plus furtive. C'est pas comme avant où j'avais vraiment des sketchs en entier, voilà, ouais, dans une situation, machin. Là, non, là, c'est des plein de petits act-out, on appelle ça, des petits personnages qui arrivent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, voilà, trucs comme ça. Mais ça parle vraiment, oui, ça parle beaucoup de moi.
Ça parle beaucoup de toi, très bien. Donc, tu prépares ton prochain one-man show, ton prochain spectacle, mm-hmm, mais tu es aussi actrice, chroniqueuse dans la presse, écrivaine récemment, on va en reparler tout à l'heure. T'es passé par la radio, le Jamel Comedy Club. Les plus jeunes ont pu te connaître sur YouTube pour ta participation à des chaînes comme L'Hollywood, Wonderfuls ou Topito. Dans tout ce que tu fais ou dans tout ce que t'as fait, qu'est-ce que tu as le plus kiffé et pourquoi?
Alors j'interviens aussi sur un média sur Instagram qui s'appelle Wonder.
On va en parler après.
Ok, mais on va parler après. Mais bon, tu me demandes qu'est-ce que j'ai le plus kiffé. Si ça fait partie de la réponse.
Ça fait la transition.
Qu'est-ce que j'ai le plus kiffé? Franchement, en vrai, j'arrive pas du tout à savoir parce que chaque expérience m'a apporté des trucs hyper différents. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait faire uniquement du théâtre parce que j'avais vraiment besoin du contact avec le public. Et avec l'Hollywood m'a vraiment ouvert une perspective de jeu devant une caméra, parce que, enfin, l'Hollywood, Wonderfuls, on va dire, mais en tout cas, ces mecs-là m'ont vraiment ouvert ça, parce que tout d'un coup, j'avais carte blanche pour pour créer des personnages aussi. Ils étaient morts de rire, ils me reprenaient pas du tout, donc j'étais libre, de vraiment hyper libre. Et les conditions de tournage du web sont très cool. Moi, j'adore parce que ça doit aller très très vite. On reprend pas 15 fois les prises. Dès qu'elle est bonne en technique, et ben c'est bon, c'est qu'elle est bonne parce qu'on doit enchaîner. Et ça, j'adore. Alors que au cinéma, ce qui me frustrait un peu, c'était de devoir faire 15 fois une ouverture de porte, quoi. Et là, dans le web, on va à l'essentiel et ouais, c'est quand même vachement axé sur le jeu des comédiens. Donc ça, moi, ça m'amuse aussi. Donc ils m'ont ouvert cette perspective-là. Et maintenant, j'avoue, j'adore aussi les tournages, quels qu'ils soient. Donc j'adore ça. Et Allô la vie, le format que j'ai sur Wonder, oui, c'est incroyable pour moi ce sas-là de liberté. J'apprends aussi ce que c'est que d'écrire sa propre vidéo,
ouais,
et de voir la monter, la réaliser, tout ça. C'est vachement bien.
Donc, tu fais tout seul ? Soit c'était sur le.
Je fais tout seul. Je suis assistée de. Enfin, il y a une monteuse professionnelle qui manie le logiciel à ma place, mais c'est moi qui dis on prend telle prise et tout ça, quoi. Voilà. Donc je supervise tout, mais c'est vraiment. Et j'ai une petite aide de co-auteur, bien sûr, Xavier Bazoge qui est présent, et Romain Despérou qui ne nous écoute pas puisqu'il est à Paris.
Très bien. Il ne nous écoute pas pour l'instant, mais il y a le podcast.
Il ne nous écoute pas pour l'instant. Mais voilà, donc j'ai tout aimé. Et puis la radio aussi, ça m'a ouvert plein d'autres perspectives. Donc franchement, j'ai tout aimé.
Tu as tout aimé. C'est formidable. Ouais. Alors justement, tu parlais de ta chaîne, de tes vidéos sur Instagram, sur la chaîne Wonder, ouais. Allô la vie. Je te propose qu'on écoute un petit extrait d'une de tes dernières vidéos où tu parles de l'hypocrisie autour des réponses apportées aux revendications des féministes. Ça a l'air très sérieux, mais en vrai, c'est plus sympa.
Imaginez des gens bloqués sous la neige. Certains sont méga couverts et d'autres à poil.
On va quand même pas leur dire.
Vous avez froid ? Bah prenez un bonnet, tiens. Après on verra.
Tu vas avoir une petite conduite, un legging, quelque chose, une mouche.
Eh oh ! Doucement là, hein ? C'est pas la peine de s'énerver, hein ? Puis qu'on arrête de nous dire que c'est de la faute de ceux qui ont un anorak.
Non mais c'est un peu, oui, ça, cette mise en situation faisait référence au fait qu'on dit toujours, ouais, les féministes, elles n'arrêtent pas de gueuler, et vous voulez tout en même temps, mais ça prend du temps, les réformes et tout ça, ça prend du temps, arrêtez de vouloir tout en même temps. Et c'est pour ça que je comparais ça, je faisais l'analogie avec ouais, quelqu'un qui se retrouvait à poil sous la neige, on ne dit pas, eh oh, 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 ça, prenez un bonnet déjà, après, nous faites pas chier. Et voilà, et aussi pareil sur le truc de qu'on arrête de nous dire que c'est de la faute des gens qui ont un anorak, voilà, ouais, qu'on arrête de dire que c'est de la faute des gens qui ont tous les privilèges. Alors que si.
Et justement, tu as écrit un livre sur le sexisme qui s'appelle « Merci, fallait pas, le sexisme expliqué à ma belle-mère ». On va en reparler un peu tout à l'heure. Oui, j'annonce beaucoup de choses tout à l'heure, mais on en parle vraiment après.
Hein. D'accord.
Un des enjeux des féministes, notamment, c'est l'accès à la contraception, l'enjeu autour de la contraception. Et c'est le jeune homme à ta gauche qui va nous en parler. Yes. Rebonjour Mathis Diou, tu étais 19 ans. Oui, le jingle est minimaliste, mais on aime bien. Dans ton bail de ce soir, tu vas nous parler de ces êtres que tout le monde trouve tellement mignons. Oh, il te ressemble. Oh, il a tes yeux. Alors que c'est tout moche et fripé. Tu veux donc commencer ta chronique d'un soir en nous parlant de nourrissons.
Exactement. Ami du tact dans les chroniques et du talc sur les fesses, bonjour. Si je vous dis petit être chétif qui passe son temps à geindre dès qu'il souhaite s'exprimer, ça commence par B. Oui, Benabar, ça marche aussi, mais c'est de bébé dont nous parlons aujourd'hui. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, certainement pas. S'il y a bien une cause pour laquelle je donnerais ni mon cœur ni mon corps, c'est bien un bébé. Pourtant, il y a des gens qui essayent de me vendre le fait qu'avoir un bébé à mon âge, ce serait un cadeau du ciel et qu'il ne faut pas laisser bébé dans un coin de ma tête. Moi, je les ai vus, les jeunes de mon âge qui ont des gosses. J'ai fait mon Erasmus dans une ex-ville industrielle de l'Angleterre. Tinder là-bas, c'est une maternité. Une fille de mon âge sur trois est enceinte, match groupé, deux pour le prix d'un. Chaque match est un Kinder surprise. Clairement, moi, ça ne me fait pas rêver. Ces femmes enceintes connectées à Tinder parce que le papa, cette fois, il s'est rappelé de sortir avant la fin. Ces femmes qui se demandent où t'es, papa, où t'es, c'est non. Je préfère jeter le bébé avec l'eau du bain. Et puis surtout, ces jeunes femmes, elles sont enceintes parce qu'il y a des gens qui leur ont vendu le fait qu'il ne fallait surtout pas utiliser de contraception et qu'avoir un bébé, c'était positif. Alors qu'en vrai, si tu couches sans préservatif, il y a zéro positif. En fait, ce qui est terrible, c'est que ces mouvements contre la contraception, ils gagnent encore du terrain aujourd'hui. À cause de ces gens, les finances du planning familial sont en aquaplanning. Du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui ne se protègent pas, ou mal, et qui se retrouvent avec un pookie dans le sas. Et moi, je me dis, c'est mort, je suis jeune, j'ai pas le temps d'avoir un gosse, j'ai une disserte à rendre pour la semaine prochaine. Et puis moi, je veux devenir comédien, je vais être pauvre, je serai jamais au même endroit. Si j'ai un enfant, il aura moins de stabilité que ce meuble Ikea dont j'ai jamais réussi à finir le montage, putain de suédois. Non, vraiment, la paternité chez moi, c'est comme la religion. Je suis ni croyant, ni pratiquant, alors ne me parlez surtout pas du petit Jésus. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'il y a une semaine, des chercheurs indiens ont annoncé avoir mis au point un contraceptif masculin. Il est efficace 13 ans, il suffit juste de se faire une piqûre dans les testicules et après c'est wow, 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 wow. Attends, quoi ? Il faut se faire une piqûre dans les testicules. Et c'est ça votre solution pour que les jeunes aient moins de grossesse indésirée. Votre plan de com', c'est d'aller voir les mecs de 19 ans comme moi et de leur dire « Hey, t'as envie de baiser ? Tu peux, mais avant, faut juste qu'on te mette une aiguille dans les couilles et c'est bon. » Mais personne va vouloir, sauf si le mec en question, c'est le marquis de Sade. Mais sinon, Tous les mecs grimacent à l'idée qu'on leur fasse une piqûre dans les parties. Et déjà qu'ils rechignent à mettre un préservatif parce que ça les sert trop. C'est le chanteur Sting qui disait ne jamais se protéger durant ses rapports avec des fans, pour être au plus près de son public. Et ouais, c'est dirty dans Sting. Mais que fait The Police ? Bah... Et puis, ça fait des décennies que les femmes ont la charge mentale de la contraception, parce que les hommes sont prêts à tous les mensonges pour retirer le préservatif. La charge mentale, pour ceux qui ne savent pas, c'est la charge cognitive invisible que représente l'organisation tout ce qui se situe dans la sphère domestique, donc également la contraception. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la sociologie. Un bébé, ça se fait à deux, à trois ou plus si vous êtes aventureux. Mais pour éviter d'en avoir un, soudainement, les femmes se retrouvent seules à gérer. Et ça fait des décennies qu'elles supportent des pilules, des stérilets, des implants hormonaux, avec tous des listes d'effets secondaires plus longues que la liste des suicides causés par les chansons de Vianney. Dérèglement du cycle hormonal, saignements, vomissements, migraines, tumeurs, apparition de reflets roux. Sérieusement, tout cumulé, c'est pire que les symptômes de la grippe espagnole. Tu peux pas tomber enceinte si t'es décédé, efficace comme contraception. Tout ça pourquoi ? Parce que ces messieurs trouvent que le préservatif réduit leurs sensations, et donc c'est à mesdames de trouver des solutions, même si elles les mettent en danger. Et le premier contraceptif sans effet secondaire, il est pour qui ? Pour ceux qui préfèrent que leur partenaire abîme sa santé plutôt que d'utiliser un préservatif. Et puis franchement, mesdames, vous feriez confiance à un mec qui vous dit « T'inquiète, on n'a pas besoin de capote, je me suis mis une aiguille dans les parties il y a 6 mois. » Bien sûr que non. Parce qu'on sait tous que les préservatifs, c'est comme les syndicats. Plus quelqu'un essaye de te convaincre que c'est inutile, plus t'as besoin d'en avoir un. Alors s'il y a des scientifiques indiens qui m'écoutent, je leur dis ceci. C'est génial de créer des contraceptifs masculins, il faut que les mentalités changent. On a réussi à rendre ringard les pantalons pas de def, on peut bien rendre ringard le fait de pas gérer sa contraception. Et ensuite, chers scientifiques, mettez-vous au boulot pour supprimer les effets secondaires sur les contraceptifs féminins. Parce que pour le moment, malheureusement, la contraception est une affaire de femmes. Alors autant les protéger. Allez, moi je vous laisse, je dois aller acheter une boîte de préservatifs.
Bravo Mathis, merci. Très très belle chronique. Et on embrasse bien évidemment ta copine, puisque j'ai acheté une boîte de préservatifs.
Génial.
Laura, une réaction ?
Ah bah c'est super, bravo, t'écris hyper bien, je trouve.
Merci.
Mais alors, j'ai pas très bien compris quel était ton point de vue sur le contraceptif masculin.
Qu'il est super bien, mais que, comme on connaît la non-responsabilité des hommes en la matière, j'ai peur que ça change pas beaucoup, parce que la piqûre mal placée risque de réduire les choses. Et donc, il faut qu'on réduise aussi les effets secondaires sur les contraceptifs féminins.
Ouais. Mais bon, c'est marrant qu'on puisse être effrayé pour une piqûre, alors que nous, les stérilets, c'est pas plus glamour quand même.
Non, c'est sûr.
Non.
Effectivement, justement, tu posais la question à Mathis de faire un point de vue. Tu as fait des rubriques, des chroniques de radio sur Radio Nova notamment. Je ne sais pas si tu en fais toujours. Ou...
Non, j'ai arrêté.
Tu as arrêté. Et justement, cet exercice-là de faire une chronique, comment faire une bonne chronique en donnant son point de vue, justement. Comment as-tu réussi à faire une chronique ?
Écoute, je ne sais pas. J'ai absolument aucune méthodologie, mais je trouve que celle-là était vachement bien. En tout cas, le fond, la forme, il y a tout. Moi, j'aime bien les chroniques. Je suis un peu vintage, moi. J'aime bien quand il y a du fond.
T'écoutes quoi comme à la radio ?
Oh, j'écoute Inter et Culture.
Ouais. Ok, très bien.
Fandarde, la meuf est fandarde, quoi.
Et bientôt, on espère, Open By sur News FM tous les jeudis soirs. Alors, on va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien. Pour être tout à fait en cohérence avec les lignes éditoriales de la station, qui est plutôt orientée culture urbaine, Laura va donc nous partager un titre qui s'appelle « Sans logique » de Mylène Farmer.
Ouais.
Alors on coupe les micros, on écoute, on profite et on en reparle après.
Si Dieu nous fait à son image.
Écoutez toujours Open By sur News FM. Vous pouvez nous suivre sur le 101.2 FM sur Grenoble et dans le monde entier sur internet, sur le site internet Radio News FM et en podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre Instagram @openby pour suivre notre actualité et le hashtag Une trottinette pour Laura. Nous sommes toujours avec la très talentueuse humoriste Laura Domange qui nous a partagé le titre Sans logique de Mylène Farmer. Laura, pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre?
Bah déjà parce que je pense que Mylène Farmer est une jeune artiste qu'il faut encourager. Je plaisante.
Hashtag une trottinette pour
Mylène. Je plaisante. Non, mais, bah, en fait, moi j'adore, je suis vraiment, depuis que j'ai 15 ans, je suis fan de Mylène Farmer. Moins de ce qu'elle fait maintenant, mais j'adorais, je trouvais que c'était vraiment, les textes, si on écoute, je vous assure, c'est vraiment très très bien foutu. Quoi. Voilà, donc pour l'adolescente un peu dépressose que j'étais, j'avais une belle réponse là-dedans et je trouve que c'est une showgirl incroyable qu'elle a réussi à créer un univers de malade qui appartient à aucune mode et enfin... Vraiment, moi, je la trouve hyper inspirante et très intelligente. Je trouve que les textes sont hyper intelligents. Voilà.
Tu dirais qu'elle est féministe ou pas?
Oh là là. En fait, je dirais qu'elle ne s'est absolument pas positionnée sur les débats. Moi, je trouve que cette liberté-là qu'elle a de jouer sur un peu tout, de s'être mystifiée comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas restée au truc de femme-objet un peu bas de gamme sur lequel on fantasme de façon un peu bas de gamme, elle est devenue un peu iconique, elle s'est un peu déifiée toute seule, elle a réussi à créer une sorte de mystique autour d'elle que je trouve incroyable, et en ce sens-là, d'en avoir rien à foutre, je veux dire, même de pas correspondre au canon de beauté assez beauf de genre une blonde au gros sein, elle a assumé un peu ce qu'elle était, elle a joué un peu sur l'ambiguïté des genres, c'est l'une des premières quand même en France je trouve à avoir fait ça, même à s'afficher, on savait pas est-ce qu'elle était lesbienne ou pas machin, et en ce sens là pour moi c'est féministe quelque part de pas rester dans la case qu'on nous impose de la bonasse, enfin la maman voilà, elle a créé une autre case et en ce sens-là oui je trouve ça féministe,
un personnage qui est propre à elle et qui est assez unique. Donc du coup on parlait de féminisme, on parlait de sexisme, on évoquait tout à l'heure ces questions-là aussi avec Matisse. Puisque tu as publié un livre, Merci fallait pas, le sexisme expliqué à ma belle-mère, publié en 2019 cette année donc chez First Edition. Alors dans l'intro du livre, dans la dédicace, tu rends hommage à ta grand-mère Sultana pour t'avoir initiée aux grandes penseuses. Alors quelles sont ces grandes penseuses qui t'ont inspirée?
Notamment Simone de Beauvoir. Ma grand-mère était vraiment fan, quoi. Pour elle, c'était incroyable quand elle a commencé à lire du Simone de Beauvoir. Elle était au Maroc. Ma grand-mère, voilà, est marocaine et tout. Et puis elle avait une vision assez étriquée de l'avenir qu'on lui proposait. Et elle voyait là-dedans, voilà. Mais il y a d'autres femmes qui vivent librement, qui s'en foutent, qui n'ont pas d'enfants et tout ça. Et ça a été hyper inspirant pour elle. Mais bon, la société, l'époque et sa personnalité ont fait qu'elle n'a pas eu le courage non plus de ruer dans les brancards et de vivre la vie qu'elle voulait mener. Mais en tout cas, elle l'a transmis ça. C'est ce goût pour la liberté à ma mère qui, elle, me l'a transmis aussi. Donc, c'est en ça que je voulais leur rendre hommage.
Ce qui vous rend chacune plus libre à chaque fois.
Ah oui, voilà, c'est sûr que là, clairement.
Ouais. Parce que malheureusement, il existerait une mécanique sexiste, un système sexiste qui permettrait de justifier des discriminations faites aux femmes. Je te propose d'écouter un petit extrait d'un court-métrage réalisé par une dessinatrice féministe qui s'appelle Marine Spack pour justifier... dans l'extrait qu'on va écouter, les discriminations faites au travail.
Les femmes aiment toutes les enfants, et elles en veulent. Contrairement aux hommes qui privilégient plutôt leur carrière. Du coup, les femmes sont moins compétentes et moins expérimentées au travail, et finalement, c'est logique qu'elles soient moins représentées aux postes les plus importants. Et voilà, la boucle est bouclée. Sans être vraiment sexiste moi-même, j'ai intégré tout un tas de stéréotypes qui font que le système sexiste me paraît regrettable, mais presque normal. C'est le syndrome du « je ne suis pas sexiste, mais... »
Alors justement, ces clichés, ils sont nourris par des hommes et parfois aussi acceptés et soutenus par des femmes, comme on prend là l'exemple que tu cites dans ton livre, Catherine Deneuve et sa liberté d'importuner.
Oui.
Quelle était ta démarche pour écrire ce livre ?
En fait, voilà, c'est justement après La Tribune, je parle de Catherine Deneuve, mais elle a été co-signée par plein de femmes. Hein.
Centaines
c'est
de
juste,
femmes.
Voilà, c'est juste qu'on se dit à Catherine Deneuve, elle qui faisait partie du mouvement des 27, c'est-à-dire les 27 femmes qui ont signé le papier pour l'autorisation de l'avortement en France. Aujourd'hui, on se dit, bah merde quand même, toi tu fais machine arrière à ce point. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de Catherine Deneuve, mais il y en a plein d'autres.
Oui, évidemment, on va faire du Catherine Deneuve bashing.
Voilà, et donc en fait je me suis rendu compte, une fois que cette tribune a été publiée, je discutais avec les belles-mères de mes meilleures potes, qui sont copines entre elles, et avec ma mère, et je me suis rendu compte que elle défendait vachement cette tribune pour le droit d'importuner. Et j'ai trouvé qu'il y avait un conflit générationnel énorme. J'avais vraiment la sensation que c'était une façon de dire, voilà, nous on était féministes à l'époque, on s'est battu pour notamment le droit à l'IVG, à la contraception et tout ça, et plein de choses. Et vous aujourd'hui, vous allez trop loin. C'est un peu la sensation que j'ai eue. Alors que c'est marrant parce que paradoxalement, c'est grâce à ces femmes-là qu'on a eu les cartes aujourd'hui pour poursuivre la démarche.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit que ça serait drôle de... Non pas, on taxe souvent les hommes de sexisme, mais les femmes sont capables de véhiculer des clichés fortement sexistes. Donc, je trouvais ça drôle pour une fois de dire le sexisme, expliquer à ma belle-mère, donc de parler du sexisme, du sexisme féminin, parce que nous aussi, on doit déconstruire tout un tas de choses. Et voilà, j'en ai pris conscience une fois que cette tribune est sortie. Voilà.
Alors justement, ton livre permet de répondre à la question « Comment répondre à ma belle-mère sans provoquer l'incident diplomatique qui détruirait mon couple et me ferait sombrer dans une dépression après laquelle je finirais mes jours reclus en race campagne, perdu intellectuellement dans la jungle de Netflix ?»
Oui.
Alors, quel est le cliché le plus hallucinant ou qu'est-ce qui t'a paru le plus choquant de ce que t'as pu percevoir ?
Alors, en fait, j'ai vraiment listé plein de petites choses du sexisme ordinaire. Donc là où j'ai pas appris des choses, c'est que j'ai pas appris des anecdotes sexistes. Là où j'ai appris, c'est pour élaborer des réponses qui soient et marrantes et un peu documentées.
Oui.
C'est que je suis allée pousser un peu tous les sujets. Voilà.
Ouais.
Donc je dirais que dans les petits trucs du sexisme ordinaire, j'ai pas fait des grandes découvertes. Je me suis par contre penchée sur un truc qui est assez marrant parce que qui saute pas aux yeux. Je trouve tout de suite, c'est que il y a beaucoup de on le sait, les clichés sexistes, on va les attendre sur avoir des enfants, enfin des trucs comme ça, ou sur le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Bon voilà, ça on le sait. Mais par exemple la bouffe, il y a énormément de clichés sexistes véhiculés par la bouffe et notamment par tout ce qui est à table en fait.
Ouais.
Donc ça va des métiers de la restauration qui sont quand même où on verra.
Tu penses à quoi par rapport à ça ?
Je pense par exemple au fait que on a, dans l'inconscient collectif, c'est les femmes qui cuisinent. Par contre, les grands chefs étoilés sont des hommes. Voilà. Donc comme d'hab, les nanas, c'est normal qu'elles se tapent des corvées. Et quand un mec le fait, c'est un art. Donc ça, c'est quand même incroyable. Ça, par exemple, je n'avais pas forcément pris conscience de ça avant.
C'est vrai que moi non plus,
Voilà. Et il y a un livre super intéressant que je cite dans mon livre, j'ai peur d'écorcher le titre, mais ça s'appelle en gros « Féminisme ». F-A-I. Et c'est vraiment sur ça, c'est quand le sexisme passe à table, quoi. Et c'est très intéressant.
Très bien. Alors justement, tu parlais du sexisme dans la bouffe, et ce sexisme qui enferme les femmes, mais aussi les hommes. Et ça, c'est Laurent Dommage qui nous en parle.
Tout à fait.
Bon, alors, je vois, quand on part en vacances entre copains, copines, c'est toujours la même histoire, tu vois. Dès qu'il s'agit de bouffer, les hommes, vous vous occupez du barbecue pendant que nous, les femmes, on fait le dessert. Là ! Ah, pourquoi c'est pas nous qu'on fait le petit tiramisu ?
Alors, pourquoi c'est pas nous qu'on fait le petit tiramisu ?
Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est marrant parce que je discutais avec un traiteur il y a pas longtemps qui me disait ça parce que moi je suis flexitarienne, on va dire, enfin j'essaie de pas manger de viande au maximum et lui me disait bah moi j'aime pas ça, mais c'est vrai que depuis que je suis petite on m'a forcé à en manger, mais c'est horrible. C'est vrai qu'il y a un sexisme énorme face à la bouffe aussi, les hommes vous devez manger de la viande et tout, et c'est incroyable, et les filles vous devez vous affamer, c'est comme ça qu'on a tous été là.
Est-ce que tu penses que La prise de conscience sur ces enjeux féministes, elle est là, avec le mouvement Nous Toutes, par exemple, qui a émergé récemment.
Clairement, de plus en plus, voilà. Après, ça dépend. Moi, j'avoue, j'ai l'impression de vivre dans un microcosme très privilégié. C'est pas l'impression, d'ailleurs, c'est le cas. Donc, autour de moi, c'est impressionnant, tous les changements qu'il y a et toutes les prises de conscience et tout. Donc, je peux pas faire état du reste de la France.
Bien sûr.
J'ai l'impression qu'il y a une petite... Oui, ça avance de plus en plus. On n'est pas du tout... On n'y est pas encore, hein, mais on est sur le chemin, je pense. Oui.
Donc, on se prend à rêver qu'on va atteindre cette égalité.
oui, elle sera jamais parfaite. C'est impossible, mais en tout cas, on peut tendre à vouloir y aller, quoi. Voilà.
Et c'est déjà un bon début. Alors, ouais. Sachez que, quel que soit votre âge, on a le droit de rêver, on a le droit d'atteindre nos rêves en tant que société, en tant que personne. Et comme le disait si bien la chanteuse Mélodie...
Il y a pas que les grands qui rêvent. Il y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'en passent sur les lèvres, pas comme une enfant.
La chanteuse Mélodie, il n'y a pas que les grands qui rêvent.
Non, mais alors, c'est-à-dire que là, vraiment, les auditeurs doivent se dire, mais Laura Dommage a vraiment des goûts musicaux de merde.
Non.
Mais vous avez le droit, vous avez le droit, je m'en fous, j'assume. J'adore la variété française des années 80, je trouve ça, mais incroyable. Ouais.
Alors du coup, ça nous permet de parler, il n'y a pas que les grands qui rêvent, puisque on va parler un petit peu, revenir un peu sur ton parcours de comédienne qui a commencé depuis que tu es toute petite.
Oui.
Alors il paraît que tu te baladais dans les théâtres quand tu étais enfant.
Ah oui, mes parents, ils sont... médecins, ils étaient médecins de garde dans les salles de spectacle.
Ouais.
Donc en fait, quand j'avais 3 ans, 4 ans, ils allaient voir des concerts, des spectacles, et en tant que médecin, quoi. C'est-à-dire s'il y avait un problème dans la salle, ils devaient soigner les gens, et en contrepartie, ils avaient des places gratuites. Donc depuis que j'ai 3 ans, je fréquente les salles de théâtre.
Et à quel moment est-ce que tu, en se baladant dans les salles de théâtre, tu t'es dit « Ah tiens, j'aimerais bien faire... être comédienne, ou il y a quelque chose ?»
En fait, je suis allée voir le spectacle Les Sales Gosses à l'Olympia, et ils imitaient les humoristes, et Les Sales Gosses les imitaient des humoristes comme Pierre Palmade, machin et tout. Et moi, je passais mon temps à imiter, pas que les humoristes, tout le monde, vraiment.
Ouais.
Et du coup, mes parents ont dit « Ah, mais ça serait trop marrant que tu fasses ça. » J'ai fait « Ouais, c'est vrai, ça serait trop marrant. » Et du coup, j'ai voulu m'inscrire dans leur cours de théâtre.
Ouais.
Et en fait, j'étais déjà pas très maligne à l'époque. Je pensais que je m'inscrivais dans leur cours de théâtre, mais en fait, non, je passais un casting pour intégrer la troupe. Mais ça, je ne savais pas.
Ouais.
Et du coup, j'étais un peu mise devant le fait accompli quand j'ai été engagée, parce que mes parents n'en voulaient pas du tout. C'est-à-dire qu'à 10 ans, aucun parent veut que son enfant travaille.
Oui.
Donc, du coup, j'étais un peu mise devant le fait accompli, eux aussi. Et... comme ils étaient occupés à divorcer, ils se sont dit « bon, ça va la divertir ». Ils m'ont laissé faire ça. Voilà.
Alors justement, tu évoquais tout à l'heure la compagnie des Sales Gosses, les imitent, et ils imitaient notamment Élie Kakou.
Ouais.
Et ben, ça tombe bien, on a l'extrait.
Non mais, qu'est-ce qu'elle me dit ? Non mais moi, je ne suis pas dans la poire. Je ne suis pas dans la poire. Et ben maintenant, vous y êtes.
Et là, il y a Élie Kakou qui arrive.
Mais qui c'est qui s'est mort? Attends, je t'attrape, je te donne une treha, attends, tu vas voir, attends.
Élie Kakou, c'est une de tes inspirations?
Bah, c'est un des maîtres quand même. C'est un des maîtres en matière de comique. Juste sa tête est drôle, quoi. Donc ouais, c'est la vraie vis comica, tu vois. Ça, c'est très fort. Donc oui, c'est une de mes, je sais pas si c'est une de mes inspirations. En tout cas, c'est ouais, j'adorais, quoi.
Et donc après, tu fais les castings. Et donc du coup, après, tu fais les castings pour les sales gosses. Tu es prise.
Oui.
Et est-ce que tu te souviens de Madame Bourreau?
Oui, oui.
On écoute. <C'est
l'horreur. rire>
C'est horrible.
Je me présente Anne-Louise Bourreau. Et voici mes deux filles, Anne-Sophie et Anne-Laure. Anne-Laure, profil droit, face, profil gauche.
Tu te souviens?
Alors, c'était pas le casting pour les sales gosses. Hein. Ça, c'était, déjà, c'était le spectacle.
Ouais,
sauf
c'est le spectacle.
C'était la phase de casting du spectacle. Mais bon, voilà. Bref, mais c'était pas, c'est pas une archive où moi, j'ai improvisé ce truc-là très militaire.
Oui.
C'est pas ça.
Ouais. T'étais déjà douée à l'époque quand même.
Voilà. Mais en tout cas, c'était ça pour répondre à ta question. Je me suis jamais dit que j'allais devenir comédienne. Jamais. C'était vraiment un hasard, un concours de circonstances. Moi, ça m'amusait comme ça. Mais je me suis jamais dit, tiens, je vais en faire mon travail. Ça s'est imposé à moi.
Et comment ça s'est imposé?
Bah, comme ça, via les sales gosses. Et après, ouais, c'était fini. En fait, c'était impossible d'envisager faire autre chose. Impossible.
D'accord.
J'ai essayé, hein, mais je voyais pas. J'avais aucune idée. J'avais envie de faire Sciences Po. Et quand on m'a dit, mais pourquoi?
Comme Mathis, en précis.
Et ben, voilà, comme Mathis, ouais. Et quand on m'a dit, mais pourquoi faire? Je suis, c'est vrai, pourquoi faire?
Alors, du coup, tu n'es pas allé à Sciences Po, mais tu as monté une troupe, la troupe des Strapontins.
Ouais, Strapontins.
Strapontins,
ouais,
pardon.
Un petit jeu de mots, voilà.
Écoute, un petit jeu de mots, c'est un peu comique. Du coup, à la radio, voilà, on l'entend bien. Que tu as joué au théâtre du Ranelagh, qui est loin d'être le plus mauvais des théâtres parisiens. Tu peux nous raconter un petit peu?
En fait, j'étais dans une école de théâtre. Après les sales gosses, j'ai arrêté, j'avais 13-14 ans, truc comme ça. Après, mes parents m'ont dit, il faut que tu aies ton bac pour continuer. Je suis, oh putain, ok, j'ai passé le bac. Et après, ils m'ont dit, non, il faut que tu ailles à la fac. J'ai fait, ah non, hein, vous m'avez eu avec le bac, j'irai pas à la fac, c'est mort.
Bim.
Donc, je suis allée dans une école de théâtre. Et parallèlement à l'école de théâtre, j'ai monté une troupe. Voilà, j'avais 18 ans avec les gens que je trouvais les plus stylés dans ma classe,
ouais,
de théâtre. J'ai fait, allez hop, venez, hop, on va monter une troupe. J'ai écrit un spectacle dans la nuit, lors d'une insomnie, c'est vraiment mon lot quotidien. Et du coup, on l'a monté. Et pour le financer, on a fait des happenings de théâtre dans le métro. C'est-à-dire, on était dans les rames du métro et on faisait des scènes qu'on travaillait en cours, des scènes de théâtre classique, genre Andromaque et tout ça, dans le, ouais, métro. Et à la fin, on passait un chapeau en disant, bah là, c'est pour écrire un spectacle sur le thème du métro, pour le monter, on a besoin de votre participation. Et les gens ont été méga généreux, puisqu'on a genre récolté 3000 euros en un mois.
Oh waouh!
Ouais, et du coup, ça nous a permis de payer les costumes et tout, et en plus de choper masse de presse, parce que les journalistes prennent le métro, et c'était assez incroyable dans la rame d'avoir une animation comme ça. Et du coup, on a eu, c'est un premier spectacle, une première aventure qui a cartonné. Enfin, pour moi, c'était au-delà de mes espérances. J'avais 18 ans, et je voyais qu'on pouvait, que c'était possible, que mon rêve de vivre de ce métier était accessible, en tout cas. Voilà.
Bah écoute, c'est formidable, ouais, c'est formidable. Tu vois, c'est une très belle histoire. Il y a une personne que tu connais depuis pas mal de temps qui a tenu à te laisser un petit message vocal. C'est une petite surprise, une petite dédicace.
Coucou Malorant, écoute, c'est Sylvie. J'ai juste deux mots à te dire. D'abord, tu m'appelles un peu plus souvent.
Oui.
Et ensuite, j'ai un respect énorme et profond pour toi et ton talent. Tu es quelqu'un qui rebondit. Et toute cette énergie, je la partage avec toi. Bisous, ma belle.
le haut de Laura Domange. Oh,
incroyable. Trop dingue.
Sylvie Ferrier, qui est la directrice, oui, la fondatrice de la, ouais, compagnie Les Sales Gosses qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, exactement. Et bien oui, Sylvie Ferrier, qui est un peu mon double parce qu'on est né le même jour.
Oui.
Et je me suis énormément identifiée à elle quand j'étais enfant. Je la trouvais incroyable. Et du coup, c'est à cause d'elle que je me suis mise à fumer, hein, parce qu'elle était là avec ses grands manteaux, ses longs fumes-cigarettes. Elle était trop classe. Et voilà.
Cette voix rocailleuse.
Et cette voix rocailleuse, non, mais impressionnante. Et puis c'est fou, quoi, ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait avec les enfants, c'est extraordinaire, parce que la compagnie des sales gosses, c'est vraiment une compagnie qui existe encore, qui donne des cours de théâtre. Et voilà, si vous avez des enfants qui veulent faire du théâtre, c'est tellement bien, c'est l'école de la vie. On nous traitait comme des adultes, mais c'est-à-dire pas au sens, bon, avec des grosses... Enfin, je veux dire, pas au sens chiant d'adulte, au sens où on prend pas les enfants pour des gens stupides, et on leur laisse, on écoute vraiment leurs paroles, on écoute ce qu'ils ont à dire. et on les laisse libres d'exprimer leur créativité. Donc en ce sens, c'est vraiment une super compagnie et je ne vois pas qui d'autre à part cette femme et son double à un moment, Philippe Bretin, à part eux, je ne vois pas qui pourrait faire ça en France. C'est très, très beau, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Même si vous avez des films avec des enfants et tout, il faut appeler les sales gosses parce qu'ils sont trop forts et ils savent trop, trop bien les diriger.
Alors, pour finir dans l'émotion, la réflexion, je vous propose aux auditeurs, à toi, Laura, Mathis, tout le monde, qu'on écoute l'instant narration de Mathilde. C'est un récit en lien avec l'actualité. Mathilde, c'est à toi pour ton instant narration.
Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices. Je vous retrouve ce soir avec mon instant narration. Comme vous l'aurez compris, à part la scène, c'est la condition des femmes qui est mise en avant dans cette émission. Je vais à présent vous raconter une histoire qui n'est pas des plus joyeuses, mais qui illustre une des réalités de notre monde d'aujourd'hui. J'habite à Paris depuis quelques temps maintenant, et j'ai pris comme habitude de regarder la majestueuse Tour Eiffel faire tourner son phare sur la ville qu'elle domine de sa grandeur. Celle-ci brille chaque soir de mille feux. Elle étincelle dans le noir. Sa silhouette se détache du ciel et brille autant que mille étoiles réunies. Elle est comme un soleil qui illumine encore la nuit de la ville de Paris. Elle est aussi le symbole de Paris. Elle revêt chaque soir pour nous sa robe de paillettes pour impressionner les passants et les habitants. Mais, ce soir, c'est moi qui déambule dans la rue, vêtue de ma plus belle tenue, qui s'apprête... Et je m'apprête à passer une bonne soirée avec ma meilleure amie. Je ne peux m'empêcher de sourire pensant à la soirée qui allait se dérouler. Je m'arrête pour commander un verre dans un bar et je décide d'aller m'asseoir à une table à l'extérieur puisque le climat s'est prêté assez bien. Il y avait un poste de radio situé sur le comptoir qui diffusait de la musique des années 60. Cela me plongeait dans une nostalgie du Paris d'avant, avec les femmes et les hommes en chapeau, avec les tenues de l'époque que j'aimais particulièrement. Je me mis même à fredonner quelques notes. Le temps passa. Il se faisait de plus en plus tard. Je décidai d'appeler mon amie, un peu inquiète de ne pas l'avoir arrivée. Le bip du téléphone retentit quelques instants dans mes oreilles. Une voix grave le fit cesser. Je lui demandai qui il était. Il me répondit qu'il était de la police et que lui et ses collègues avaient été appelés au domicile de mon amie. Ils semblaient tourner un peu autour du pot. Alors, je lui demande pourquoi est-ce qu'ils avaient été appelés chez mon ami. Il se tut et me dit que mon ami était par terre, le corps marqué par des coups saignant abondamment à certains endroits, qu'elle venait de quitter ce monde. Il se tut encore une fois. Il me demanda pourquoi j'appelais mon ami à cette heure-ci. Moi, étant sous le choc, je pus tout de même répondre à sa question. Le policier mit alors l'hypothèse que son conjoint l'avait frappée parce qu'il ne voulait pas qu'elle sorte ce soir. Il m'avait décrit la scène avec des vêtements déchirés au sol. Je savais alors par instinct que c'était des vêtements qu'elle portait régulièrement. Ce manteau qui lui allait si bien, lui affinait la taille tout en dévoilant subtilement ses jambes. Ce chapeau couleur bleu profond qui lui allait à ravir, et j'en passe. Quel dur châtiment pour une simple sortie en ville. Comme tout dessein intervenant dans nos vies, on espère parfois entendre qu'il ou elle n'a pas souffert. Ce ne fut pas le cas ce soir. Ce n'était pourtant pas un crime de vouloir s'habiller à son goût. Elle avait toujours été élégante, tout le monde lui trouvait un certain charme. Le policier raccrocha le téléphone. Des pensées se bousculèrent dans ma tête à ce moment. Comment était-ce possible? Pourquoi elle? Pourquoi notre amitié depuis de si longues années? Je ne comprenais pas en quoi elle avait fait quelque chose de mal. Peut-être juste être femme? De grosses larmes se bousculèrent entre mes paupières. En les fermant, je provoquai un déferlement. Mon corps se mit à faire des secousses. J'étais choquée, horrifiée. Je me suis levée tant bien que mal. Ne pouvant contenir mon chagrin, je laissai sortir des gémissements. Je partis du bar pour aller en direction de chez moi. J'avais besoin d'être seule pour pouvoir extérioriser tout le mal qui était soudain créé en moi. Je fermais la porte de chez moi. La tristesse avait soudain laissé place à une rage que j'extériorisais alors en hurlant toute seule dans mon salon et en lançant des objets qui, pour certains, se brisèrent. Au bout de quelques temps, un peu calmée, je décidai de me diriger vers la fenêtre qui donnait alors sur la tour Eiffel. Je m'arrêtai dans mon élan. Ne voyant pas de forme scintillante se détacher du ciel, j'eus un instant d'incompréhension. Par réflexe, j'allais sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre, mes yeux parvenant à peine à s'ouvrir, gonflés par le récent flot de larmes. Dans les actualités parisiennes, on lira « Alors que Paris s'endormait, la Dame de Fer s'est éteinte quelques instants, le temps de rendre hommage aux 138 victimes de féminicide, ces femmes mortes sous le coup de leur compagnon ou de leur ex-conjoint. » Un peu plus tôt dans la journée, le compte Twitter officiel de la Tour Eiffel avait d'ailleurs annoncé ne vouloir plus rien laisser passer, une prise de position symbolique alors que s'achevait la Grenelle contre les violences conjugales. Un étrange sentiment m'emplit le cœur. Je me sentais soutenue, comprise. Ma meilleure amie, la 139e tuée depuis le début d'année, ferait partie de la liste. Mais que c'était beau ce soir-là, de voir qu'un monument aussi symbolique que la Tour Eiffel avait décidé de parler lui aussi.
Et merci Mathilde pour cet instant narration.
Rien.
L'histoire terrible.
J'ai un peu perdu ma voix entre temps.
Rassure-toi, ça ne s'est pas trop entendu.
Ça va. Pas grave, c'est pas comme si on était à la radio.
Ouais.
Laura Demange, une réaction ?
Bah écoute. Non, je pense que tout a été dit. Mes condoléances.
Après, c'est pas ma véritable histoire, hein, c'est une fiction. Mais...
J'ai bien compris.
Et oui, puisqu'elle n'a pas la Tour Eiffel à côté de chez elle, Mathilde.
Dommage. Pas à Grenoble, en tout cas. Hein.
Pas à Grenoble. Quoique.
Ah non, non, mais je pense que voilà, on est tous d'accord là-dessus. Hein. C'est une injustice qui n'a pas de mots. Il faut absolument que l'État mette en place des choses plus efficaces, parce que là, c'est une catastrophe, quoi. Les femmes sont vraiment très, très en danger, on peut rien faire, c'est une horreur, voilà.
Et c'est tout ce qui contribue à cette culture du sexisme, du patriarcat et tout ça qui est lié.
Bien sûr.
Alors, c'est sur cette note d'émotion que l'émission...
Plombante. Merci, les gars. Putain. Ok.
Oui, parce qu'il y a des choses très graves, mais il y a encore des choses encore plus graves. C'est le hashtag « Une trottinette pour l'or
». La transition...
Arrête avec cette musique de l'enfer derrière là.
Mathilde, mets le générique s'il te plaît.
Elle vient se crever là.
Ah là là là. Bon, merci à tous de nous avoir suivis pour ce dernier numéro de l'année. Merci Mathilde pour ton instant narration. Merci Mathis pour ta rubrique d'un soir. Je sais pas comment ça, le bail d'un soir, l'open bail.
Ce passage éclair.
Voilà, ce passage, ce guest. Merci Laura Demange, notre invitée. Si vous avez le courage d'aller à Genève en dépit du train pour aller la voir, elle est très talentueuse. Demain et après-demain à Genève, si la grève ne fait pas encore des siennes.
Oui.
Est-ce que vous avez des petits coucou à passer, des petites dédicaces, parce que c'est la fin de l'année, et si vous voulez souhaiter une joyeuse fête, une petite dédicace à des gens, vous pouvez y aller, c'est open bar.
Ah bon, des joyeuses fêtes. Non, j'en sais rien, bravo pour ce que vous faites, et puis belle fin d'année à tous et à toutes.
Merci. Mathis.
Un gros bisou à toute la classe de 3ème B et je sais pas, peut-être sur les dédicaces, ça me rappelle ça à chaque fois, ces dédicaces qui passaient en dessous à NRJ 12 ou quoi. Avec du coup des trucs sur toute la classe de 3ème B où on payait 4€ le SMS et on était contents.
Jenny, je t'aime. PM, JTM.
C'est ça, exactement.
Mathilde
Moi, je pense à des personnes en particulier, je pense à tous ceux de Emergence 4.
Ouais.
Tous ceux qu'on a rencontrés en plus de ceux qu'on connaissait de Emergence 2 et 3. C'est tous des gens très talentueux, je trouve. On a vraiment fait des projets exceptionnels ensemble. Et aussi, bon, il est là, mais Mathis aussi, qui est venu deux fois chez nous. Et tous nos invités d'Open By, il y a Mac, Laura Demange ici présente. On avait Ephrasis aussi.
On avait Ephrasis, on avait Mac également. Voilà. Deux autres rappeurs très talentueux.
Et aussi à mes meilleures amies, elles se reconnaîtront. Voilà.
Très bien, les meilleures amies, moi je
vous souhaite. Et à ma famille aussi. Voilà.
Et à ta famille. Comme ça, Alors, on vous souhaite de très joyeuses fêtes. Moi, personnellement, j'ai dédicace à faire à ma famille, à mes amis et à vous, les auditeurs, qui nous écoutez, qui nous encouragez, qui nous donnez des retours, qui nous permettent chaque semaine de nous améliorer. On vous donne rendez-vous début janvier prochain, on l'espère, pour plein de belles choses. Restez à l'écoute sur News FM, 101.2 FM, ou bien en podcast, vous pouvez nous écouter partout, en faisant le ménage, aux toilettes, où vous voulez. La soirée continue sur News FM avec plein de très très belles musiques. À bisous, à bientôt!